Yann et Frank est fier de s'associer à l'entreprise québécoise RangeBrand.ca, le brand numéro 1 de vêtements western au Canada. Si t'es à la recherche de vêtements de qualité disponibles dans toutes les tailles et qui vont se démarquer par un look incroyable et original, viens faire un tour sur RangeBrand.ca. Casquettes, t-shirts, hommes et femmes, hoodies, camisoles, montres et une foule d'accessoires sont disponibles. Livraison gratuite avec une commande de 99$ et plus. RangeBrand.ca.
Bienvenue dans ton Yann et Frank. Plusieurs sujets financiers aujourd'hui. C'est rare qu'on fait ça. Bon, il va de l'avant. Northvolt. Quand même un article intéressant dans le Journal de Montréal. On revient là-dessus.
Écoute, les médias québécois sont tellement pas bons des fois que tu es obligé de prendre la défense de gens que tu n'apprécies pas nécessairement. Ben, tu sais, c'est pas une histoire personnelle. Moi, j'ai rien contre Gérard Deltel, je le connais pas, il me connaît pas, je l'ai même jamais rencontré. J'ai rien contre lui, l'humain. Comme politicien, je trouve qu'il est décevant. Il m'a déçu dans le temps qu'il était à l'ADQ, qu'il y a eu la fusion avec la CAQ. Il m'a déçu comme conservateur. Bref, c'est un jugement politique que je fais. Par contre, maintenant...
C'est qu'il occupe présentement un siège qui pourrait être occupé par quelqu'un d'un peu plus...
Un peu plus musclé, on va dire.
Mais il y a une qualité, Gérard Deltel. C'est un communicateur pour vrai. Ça, c'est une qualité qu'il a. La deuxième qualité qu'il aurait, généralement très loyal à son chef. Tu sais, parce qu'il a fait campagne contre Pierre Poilievre.
Oui, c'est ça.
Il est assez loyal envers son... C'est une qualité qui est respectée en politique, qui est moins respectée un peu pour les analystes politiques comme nous autres, qui voient la contradiction.
Oui, c'est ça. Mais non, mais ça, je le comprends totalement. Donc, si on revient, on remonte le fil des événements. Le Journal de Montréal a publié la semaine passée, je pense, c'était la semaine passée, 17 janvier. Cet article-là, « Bagel et pizzeria de Montréal, Ottawa veut évaluer leur pollution atmosphérique. »
Hey, ça, c'est capoté. Qu'est-ce qu'ils font des bagels?
Tu sais, les gens sont là, on se fait taguer des fois dans des affaires. Ouais, c'est quoi le problème avec tel autre? Chris, le politicien municipal est rendu à la tête dans litière et dans le poêle à bois. Trudeau et des bagels. Eddie Van Roberge et Legault qui veulent jouer dans mon Spotify. Chris, avez-vous fini de nous écœurer avec vos lubies et vos affaires?
Puis il n'y a pas en France qui disent que les fours à bois, finalement, c'est une bonne idée.
En France, il y a comme un nouveau programme, une nouvelle publicité du gouvernement. Ils disent aux gens, le bois, ça repousse, donc c'est une énergie renouvelable. Fait que vous pouvez...
Hey, non, mais ça, c'est
je vais essayer d'ici la fin du show de vous retrouver la publication.
Mais ça, c'est comme les masques, hein? Ah, OK, on manque de masques. Non, allez pas acheter des masques, là, ça vaut pas la peine. T'sais, vous allez le mettre tout croche, ce sera pas utile, puis tout ça. Puis là, finalement, on refait des stocks de masques, puis là, Horatio, il sort, puis il dit, non, les masques, c'est la huitième invention, la huitième merveille du monde, faut vous mettre ça dans la face. On va même vous obliger à le faire, gang de crétins.
C'est n'importe quoi.
What? Les poils à bois, c'est pareil
en France. Les pizzerias et fabricants de bagels de Montréal qui cuisent leurs recettes dans des fours à bois pourraient devoir déclarer leur émission de polluants atmosphériques chaque année à l'inventaire national des rejets polluants. Donc là, le gars fait cuire...
L'inventaire national des rejets polluants. Moi, dans ma perspective, tu prends l'ensemble des employés de cette agence-là qui s'occupe de ça, puis tu me sacs tout ça à porte.
L'agence aux poubelles aussi, là. Arrêtez de nous,
absolument pas rapport,
nous faire croire que ces gens-là délivrent un service. Cette liste fédérale est un inventaire de polluants qui peuvent être rejetés dans l'eau, dans l'air ou encore sur le sol par des entreprises industrielles et commerciales. Elle est accessible au public. Là, on nous dit qu'il y a une centaine de commerces dans la métropole qui utilisent encore des fours à bois ou des grilles à charbon de bois et particules fines.
Mais c'est pas une marque de commerce pour les usines de bagels de faire ça.
Oui, c'est comme une pizza sticuit... dans un four à pizza avec des... Chris, c'est un business. Tout ça. Fait que bref, Trudeau et sa gang de matamores sont rendus à la tête dans le four à bagel en train d'aller checker s'il n'y a pas du créosote, ces briques. Ouais, mais mets ça dans le registre. Puis là, c'est complètement débile. Et là, Gérard Deltel a fait une vidéo là-dessus. Il est allé dans une bégueulerie, ça n'existe pas, là, mais dans un. Ouais, c'est même ça s'appellerait dans une bégueulerie. Mais c'est ça. Gérard Deltel, il a fait une vidéo, puis il a appelé ça incroyable. Justin Trudeau et son ministère de l'Environnement veulent s'attaquer aux fours à bois dans les pizzerias et les magasins de bagels. Seuls les conservateurs peuvent leur enlever les mains de la pâte. Quand même, je l'ai trouvé quand même assez bonne. Fait qu'on regarde la petite vidéo qu'il a faite.
Bien le bonjour tout le monde. J'imagine que comme moi, vous adorez manger des bagels qui sont cuits au bois. D'ailleurs, ici à Ottawa, on les fait cuire au bois. C'est très bon, c'est délicieux, mais attention, le gouvernement libéral veut faire le registre de tous les bagels et les pizzas qui sont cuites au bois. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est polluant. Et ils veulent faire un grand registre national des rejets polluants qui sont faits par les fours au bois pour les bagels et les pizzas. Ça n'a pas de bon sens, hein? Vous pensez comme moi, ça n'a aucun bon sens. C'est pourquoi nous, les conservateurs, on va se battre pour faire sûr et certain que les libéraux ne vont pas de l'avant avec cette idée stupide de faire un registre et d'empêcher surtout les bagels et les pizzas d'être cuits au bois.
Bon. Sur la... je veux dire, mettons d'un point de vue technique, ça sonne comme de la marde.
Mais il y a une amélioration, je veux dire. Avant ça, il était missing in action, lui-là.
Mais c'est quoi le problème avec ce qu'on vient de voir? Il a pas menti. Tout ce qui est dit dans la vidéo est écrit dans l'article du Journal de Montréal. Et là, qui répond?
Est-ce que là, t'es-tu en train de dire qu'il s'est fait ramasser dans les médias pour avoir fait cette vidéo?
Ben là, non, ramasser, ridiculiser. Donc là, voici le texte du truculent Antoine Robitaille dans le Journal de Montréal. C'est un des pires torchons que j'ai jamais lu de ma vie, cet article-là. Comme élu conservateur, Deltel préfère les complots pizza et bagelophobes à la vérité.
Attends un peu. Wow. Que c'est ça? Complot?
C'est parce que Antoine, Gérard, là, c'est-tu ce qu'il a fait? Il a lu un article qu'un de tes collègues a écrit, puis il a fait une vidéo avec. Fait que si ce qu'il raconte n'est pas vrai, là, tu iras voir ton collègue.
Ouais, mais comment ça passe, ces affaires-là?
Si au moins c'était dans la presse, hein? Mettons c'est la presse qui fait ça, je dirais, OK, c'est tel que tel. Chris, c'est le même journal! Et là, écoute bien, le niaiserie que le gars raconte, c'est débile raide. Le Parti conservateur de Pierre Poilievre consolide son avance à peu près partout dans le Dominion, sauf au Québec. Il y a quelque chose dans cette formation politique qui ne passe pas chez une bonne partie des électeurs. Deux aspects agacent particulièrement dans notre société distincte. Le soutien des militants et élus anti-avortement. Man, c'est quoi que l'avortement vient faire d'un bagel?
On parle de fucking bagel. Puis on parle de fucking Gérard Deltel. De quoi tu parles, là?
Mais man, ils sont dans la démagogie, mais par-dessus à la tête. Le gars fait une vidéo sur les bagueleries à Montréal. Ben, en fait, c'était à Ottawa, de ce que je comprends dans la vidéo. Ouais, fait une vidéo sur les bagels. Le gars trouve le moyen de parler d'avortement. Hey, puis d'après toi, de quelle autre affaire pourrait parler?
Des crosseurs.
L'appui des lobbies travaillant à saper le contrôle des armes à feu. Je te le dis, non, c'est écrit noir sur blanc.
Des crosseurs.
Qu'est-ce qu'ils viennent faire les armes à feu là-dedans? Hein? On peut-tu le savoir?
Des crosseurs.
À ces deux facteurs déterminants s'ajoute désormais la manière de Poilievre de faire de la politique américaine dans le pire des sens du terme, mélange de mauvaise foi assumée, d'affirmations post-factuelles, d'identification de boucs émissaires méchants et de cas symboliques montés en épingle.
De quoi qu'il parle?
À l'entendre, le gouvernement Trudeau serait en croisade contre les fours à bois. Le chef a fait un point de presse remarqué, non sans point d'humour, dans un restaurant à côté d'un four à pizza. Justin était encore une fois accusé de tous les maux.
Oui, mais c'est vrai.
C'est ce qui est écrit dans l'article que le fédéral songe à empêcher ce genre de truc. Puis pourquoi vous pensez qu'il lui demande d'être sur un registre?
Bruno
Marchand à Québec, là, qui fait un registre des poêles à bois, là. Pourquoi vous pensez qu'il fait ça?
Ben, c'est parce qu'en 2030,
ils veulent les enlever. Regardons ça. Fait que la bégueulerie qui s'inscrit sur le registre de marde à Trudeau, c'est quoi que vous pensez qu'il va se passer dans 3, 4, 5, 10 ans?
Écoute, ça fait longtemps que il se passe de quoi au niveau des rapports d'impôts. Depuis quelques années, si tu vends une propriété, tu dois l'inscrire, même si officiellement, tu ne reçois pas de taxation par rapport à ça. Ben, il y a bien du monde dans l'industrie de la finance qui disent le fédéral est à quelques années de décider d'imposer un gain de capital sur notre résidence principale. Tout le monde est persuadé que ça va arriver d'ici quelques années. Parce qu'ils nous demandent la question sur le rapport d'impôt alors qu'on n'est pas taxé là-dessus. On sait comment que le gouvernement fédéral marche, là. C'est un modus operandi.
Oui.
On ramasse l'information, puis éventuellement, on fait le programme. Présentement, les employeurs, en 2023, 31 décembre 2023, on a une nouvelle question à répondre sur nos rapports d'impôt qu'on soumet. En fait, pas le rapport d'impôt, mais le rapport de T4 qu'on envoie au fédéral. La question est la suivante. Le régime dentaire de vos employés, c'est lequel? Ben, moi, par exemple, pour les productions Yann et Frank, Joey, qui est un nouvel employé qui n'avait pas encore accès à notre programme d'assurance, ben lui, j'ai dit qu'il n'y en avait aucun. Puis Frank, qui avait accès au programme d'assurance, j'ai dit, ben lui, il y en avait un pour sa famille. Je viens de remplir ça. Mais pourquoi vous pensez, c'est quoi qui s'en vient après ça? Ben, c'est l'assurance dentaire fédérale qui s'en vient. Voyons, c'est fille, il marche tout le temps de même, le fédéral.
C'est pas un intervention complot, clownesque. Indignation artificielle. Si le député avait respecté son ancien métier et non la méthode Poilievre, il aurait passé son tour. Non.
Non, mais c'est pas un journaliste.
Non, aucun État profond ne cherche à empêcher la cuisson au bois.
Wow. Attends un peu. Moi, les affaires d'État profond, de Deep State, puis tout ça, du conspi, puis du complotisme, je suis très sensible à ça. Puis je le vois quand un député va là, ou un militant va là, ou un commentateur va là. Je le vois très facilement. Il y a zéro ça dans ce que
tu as dit. Il
n'y a pas d'affaires de Deep State. La seule
affaire qui est clownesque dans tout ça, c'est cet article de marde-là.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est un article de crosse.
C'est l'enfer.
Puis lui, il arrive, il dit en plus, Deltel n'a pas utilisé les normes d'éthique de son... Mais Antoine! As-tu regardé ton texte? Tu trouves vraiment que c'est un article de journalisme, ce que tu fais?
Oh, c'est n'importe quoi.
Fuck off, man!
Ben, s'il trouve que c'est un article de journaliste qui contacte son propre collègue, qui a écrit le texte, et qui nous dise que ce texte-là, c'est de la marde. Tu sais, c'est un texte de l'agence QMI. Fait qu'Antoine Robitaille, ben, il nous dit que l'agence QMI, c'est de la marde.
Mais c'est tellement crosseur comme façon d'écrire et de déformer la réalité. Il a mixé l'avortement, il a mixé le port d'armes, il a mixé le trumpisme au travers, il a mixé l'américanisation de la politique conservatrice. Oui. Je veux dire, c'est des liners d'un spin doctor libéral. Carrément, là.
T'sais, je vais juste reprendre un truc qui est écrit dans le premier texte qui nous parle de cette nouvelle-là. On nous dit que le fédéral leur songe à obliger ces gens-là à être sur cette liste-là. Et cette liste-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un inventaire de polluants, OK? Phrase suivante. Les particules fines lors de ce type de combustion peuvent cependant participer à des épisodes de smog et être nocives pour la santé. Chris, y es-tu capable de faire 1+1+1, lui?
Non,
vois bien que c'est écrit dans le ciel que si tu mets ton affaire sur la liste, ça va finir tôt ou tard par une interdiction, ou au minimum, un petit clin du gouvernement qui va débarquer en disant « Ben là, c'est plus aux normes, faudrait que tu te rachètes une autre affaire. » Puis, voyons, mais ils sont donc bien naïfs, eux autres.
Puis, à un moment donné, là, on peut-tu le dire une chose? On n'est plus dans un dôme. On sait exactement ce qui se passe ailleurs dans le monde, puis à différents paliers politiques municipales. Mettons, j'arrive, je mets « interdiction des poêles à bois ». Les foyers au bois, décoratifs ou d'ambiance, seront interdits éventuellement. Les poêles à bois non certifiés seront interdits à Québec. Se chauffer au bois sera-t-il bientôt interdit à CQC? Ville de Québec. Mettons qu'on va, mais je tape Europe, disons. Parce que ces niaiseries-là, ça a dû être quand ça a dû commencer en Europe.
Ah, c'est sûr que oui.
De la grosse recherche, moi, là.
C'est sûr que ça a commencé en Europe.
Le chauffage au bois serait-il bientôt interdit? France, 11 avril 2023. Ah. Poêle au bois, poêle au pellet et feu ouvert devront émettre moins de substances nocives. Des nouvelles restrictions pour le chauffage au bois, 8 juillet 2019. Là, on est à quel endroit? Vous voyez bien, on sait que ça sent. De plus en plus de Bruxellois s'équipent pour se chauffer. La seule interdiction qui devrait être d'application en 2025 concerne l'installation de chauffage de centrales au bois. Fait qu'à Bruxelles, en 2025, c'est fini le chauffage au bois. Vous voyez, ça prend deux secondes à trouver sur Google ces affaires-là. On le sait, c'est quoi la tendance? Pensez-vous vraiment que les politiciens québécois, dans toute leur incompétence, leur naïveté et leur insignifiance, ont la réelle capacité d'innover en matière de réglementation? Ces tatas-là font juste suivre ce que les autres font ailleurs.
Oui. Et ça, c'est ce que j'ai là, je vais vous mettre, je l'ai retrouvé, c'est la publication qui circulait en France. Je ne sais pas exactement qui l'a fait, mais elle me fait quand même solidement rire. C'est la suivante. On nous dit « Le poêle à bois est un appareil de chauffage indépendant qui utilise le bois comme source d'énergie et ce combustible peut prendre différentes formes, le bûche, les granulés, tout ça. C'est un chauffage écologique et renouvelable, car le poêle à bois utilise une énergie renouvelable et locale. » Ah, le local, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. « Le bois, à l'inverse des énergies fossiles, pétrole, gaz, etc., qui s'épuisent à mesure que l'on les utilise, le bois peut être replanté et on en trouve sur tout le territoire français. » N'est-ce pas là? Magnifique, chers auditeurs. Écoute,
Bifo, il y a de la malhonnêteté intellectuelle incroyable.
C'est incroyable. C'est un des pires textes que j'ai jamais lu de ma vie.
Ça se qualifie pour être José Legoesque, là, cette affaire-là.
Ah oh, oui, regarde. C'est... Mais en fait, c'est du genre de truc que je me serais attendu dans la presse, là, sous la plume de...
C'est vrai, il n'a même pas été nominé dans le Dôme d'Or 2023. Je pense
ça s'enligne. Mettez ça dans les archives, quelqu'un, là. Ça s'enligne bien pour ça, j'ai envie de vous dire. Écoute, il y avait un article intéressant dans le Wall Street Journal ce matin. J'aime bien lire le Wall Street Journal en me levant. C'est un peu aride des fois, mais quand même. Qui nous parle de Jerome Powell, donc le gouverneur de la Réserve fédérale aux États-Unis, qui subit dans le fond on nous dit qu'il y a des très fortes chances qu'il subisse des pressions politiques, parce que là, vous savez qu'on est dans une année électorale. Il y a toujours aux États-Unis l'idée que le président est responsable de la merde qui se passe ou des bonnes affaires qui se passent.
C'est un peu fou.
Ce qui est un peu fou, là. Mais bref, donc là, si les taux sont maintenus ou si les taux d'intérêt sont baissent, ben ça va influencer le cours des choses dans l'économie. Mais techniquement, le gars de la Réserve fédérale, lui, il n'est pas censé de se préoccuper des élections. Il est censé de se préoccuper de l'inflation puis de l'économie. Sauf que sa nomination, comme elle est politique, parce que c'est le président, je pense, qui nomme le gouverneur de la Réserve fédérale, le boss de la Réserve fédérale. Donc là, on nous dit Powell navigue dans des eaux toxiques en ce moment.
Ben écoutez, quand la renomination de Powell est arrivée, c'est pas le bon terme que j'utilise, mais vous comprenez un peu l'idée. Il fallait avoir sa confirmation qui renouvelait son mandat. Il n'avait pas vraiment commencé à être intense sur l'inflation avant ça, là.
Non, c'est ça.
Il était très, très, très tranquille. Après ça, il a été confirmé, puis soudainement, il est apparu, « Hey, là, l'inflation, c'est grave, puis on va augmenter les taux. »
Donc là, on nous dit « Jerome Powell doit décider quand réduire les taux d'intérêt. » Et c'est très difficile. Trop tôt, l'inflation pourra à nouveau augmenter. Trop tard, le chômage pourrait augmenter. Le défi est doublement difficile cette année parce qu'il relève sous le feu de la politique d'une année électorale. Les alliés de l'ancien président Donald Trump, le favori républicain, ont déjà fait valoir que la Banque centrale cherchait à aider le président Biden en envoyant le signal que des coupes étaient à venir. Pendant ce temps, certains démocrates, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'aile ouest parlementaire, craignent que les perspectives de réélection du président actuel ne soient compromises par une banque centrale qui maintient des taux trop élevés pendant trop longtemps après que la Fed et l'administration aient mal évalué l'inflation. Et c'est pas, je voudrais pas être assis dans cette chaise-là.
Ben en fait, moi, ce que je sens quand même, parce que c'est quelque chose que je suis beaucoup, je sens pas qu'il céderait tant que ça aux pressions politiques. Présentement, le problème qu'ils ont, parce que c'est des économistes, là, c'est quand même assez difficile de prendre ces décisions-là parce qu'il y a un lag. Tu implantes une politique de taux monétaire et avant d'en voir réellement les effets, ça prend du temps. Donc, quand ils augmentent les taux d'intérêt très, très, très rapidement, en 2022 surtout...
On ne voit pas d'effet là, dans l'immédiat.
Il faut attendre quand même la mi de l'année 2023 avant réellement sentir que l'inflation casse. Tu sais, on avait grimpé quasiment à 8% de mémoire, puis là, on a fini l'année à 3%. Puis en janvier, ça a remonté. Les chiffres 3. De décembre, 7, en fait, 3. On remonte 3.4, je pense que c'est Canada, 3.9 aux States. Ce qui n'était pas une bonne nouvelle parce que c'est un changement de tendance. T'sais. Fait que là, tu dis, ça ne va plus dans la bonne direction. Fait que là, t'es en wait and see. Ils sont vraiment dans une situation où ils checkent toutes leurs variables économiques. Il y a eu quand même la semaine passée une nouvelle qui était intéressante dans le sens qu'il y a une autre mesure d'inflation qui finalement tombait en bas de 3%. Mais ça ne tient à pas grand-chose. C'est extrêmement fragile. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est le discours dans les médias financiers. J'ai l'impression que il n'y a plus personne de rationnel dans notre société. Je vais vous expliquer un peu c'est comment ça devrait fonctionner d'une manière normale, une banque centrale. Je pense que 2018, c'est l'exemple le meilleur pour vous le démontrer. 2018, on rentre dans l'année et à ce moment-là, on commence à avoir des craintes que l'inflation monte. C'est pas nouveau, là, l'inflation. Là. C'est quelque chose qui est toujours regardé. Mm-hmm. Et à ce moment-là, la Banque centrale commence à prendre des actions en disant, ben écoute, il y a une petite surchauffe économique. On a peur d'échapper à l'inflation. L'inflation, on vise 2 %. On vise pas 3, on vise 2 %. Puis on tolère entre 1 et 3. Donc, c'est de même que ça doit fonctionner. Mais là, on se disait, ouais, ça pourrait peut-être dépasser 3 éventuellement. Fait qu'on va commencer à prendre action tout de suite. Fait qu'il y avait eu comme 3 hausses de taux au début de l'année. Le marché financier l'avait digéré vraiment à mal, cette hausse de taux-là, qui, à toute fin pratique, est une forme de bonne nouvelle. Parce que tu dis, écoute, l'économie va tellement bien qu'on a peur qu'elle surchauffe, on a peur que la surchauffe amène de l'inflation. Donc, on va bouger tout de suite pour s'assurer que ça se calme un peu. En fin d'année 2018, les marchés financiers ont planté. Pas énormément, là, mais 10, 12, 15 % dans ces coins-là. Là. Je vois de mémoire. Puis, ça avait mis vraiment comme de l'eau froide sur la bourse. Ça avait fait « Wow, OK, là, on se calme les nerfs. » Puis, il y avait eu des réajustements, ainsi de suite. Ce qui nous a donné une année de 2019 en bourse quand même relativement calme, où est-ce que ça a monté progressivement. Puis, l'économie allait bien, puis finalement, les menaces inflationnistes s'étaient calmées. Mais on était « on the watch ». Arrive la pandémie, puis là, le shit show, évidemment. Les taux d'intérêt sont diminués tout de suite. Il y a du quantitative easing à la tonne parce qu'on a fermé l'économie. T'sais, on a été vraiment dans des territoires qu'on n'a jamais été. Puis là, ça a donné ce que ça a donné. Un 2 ans de marde au niveau économique avec suivi d'une période inflationniste parce qu'on a tellement imprimé d'argent que l'argent s'est ramassé partout. Puis là, après ça, il faut que tu augmentes les taux, il faut que tu contrôles ça, puis ainsi de suite. Sauf que le contexte normal de 2018, c'est que tu as une inflation qui est relativement stable. Navigue autour de 2 %, tu as peur qu'elle dépasse 3 %, tu commences à hausser les taux tout de suite. Fait que là, gardez ça en tête. Là, on est dans une situation qu'on arrive de 8 % d'inflation, puis on descend jusqu'à 3,4, jusqu'à 3 %. Puis là, ça remonte en haut de 3. Et là, tu as toutes sortes de commentateurs politiques, toutes sortes de commentateurs financiers qui sortent dans les médias qui disent...
On va avoir 5-6 baisses là, cette année quasiment.
Exact.
Qu'est-ce qu'ils racontent, ces gens-là?
What? Mais tu sais... Généralement, les baisses de taux, surtout drastiques, vont arriver dans un contexte très précis, une récession profonde. C'est pas quand tu flirtes avec la récession, c'est là tu dis, écoute, l'économie est jamais, on est à 10 % de chômage, vite, il faut faire de quoi, il faut la stimuler. Là, on va baisser les taux souvent de manière très drastique. On va penser au quantitative easing par après. Là, on flirte avec le 3 % d'inflation pendant un mois ou deux. Après ça, il y a un renversement de tendance qui s'opère. Donc, tu es dans l'incertitude la plus totale. Tout le monde parle de baisse de taux. Vous prenez vos swaps des réalités, les amis. Là.
Mm-hmm.
Il y a une différence entre souhaiter une baisse de taux puis mettre de la pression à tout le monde pour en avoir. Moi, dans ma perspective, une baisse de taux est probablement plus possible au Canada qu'aux États-Unis. L'économie est plus mal en point au Canada qu'aux États-Unis. Mm-hmm. Fait que, tu sais, si j'aurais de la misère à me prononcer au Canada qu'il n'y aura pas de baisse de taux en 2024 présentement avec les chiffres qu'on voit. Par contre, aux États-Unis... J'aurais de la misère à me prononcer qu'il y a une baisse de taux aux États-Unis parce que.
Mais c'est ça, mais on dirait qu'il y a un problème. Mais c'est ça, mais on dirait qu'il y a un problème de perception. Là. Les gens pensent que s'il y a une baisse de taux, c'est que ça va bien, mais c'est plutôt le contraire. Là.
Non, exact.
C'est ça va bien, OK. C'est parce que l'inflation, mettons, si tu le regardes juste l'aspect inflation, mais il y a l'aspect économique là-dedans.
Bien, à toutes les fois qu'on parle à des gestionnaires de portefeuille d'un côté, ce qui m'épate le plus, c'est que moi, j'interprète toujours comme la possibilité d'une baisse de taux comme étant une mauvaise nouvelle économique. On parle d'entreprises qui vont avoir de la difficulté à faire des profits, il va y avoir des faillites, il va y avoir des mises à pied, il va y avoir des taux de chômage qui augmentent. Si tu me dis que les gouvernements baissent, la Banque centrale baisse les taux d'intérêt, c'est parce que le contexte économique, c'est ça.
Mm-hmm.
Mais Christy, à toutes les fois qu'on on dirait que la probabilité de baisse de taux augmente, la bourse se met à aller bien, puis ça se met à monter. Là, t'es là, pourquoi la bourse monterait dans un contexte qui est quand même relativement négatif?
Bien, c'est parce que je pense que c'est parce qu'on a envoyé le signal dans le gouvernement, les banques centrales, tout ça, ils ont envoyé un peu le signal que les hausses et les baisses étaient uniquement reliées à l'inflation. Donc, moins d'inflation égale bonne nouvelle. C'est ça que je le coche. C'est de même que je pense que c'est comme ça que c'est compris, alors que c'est très limité comme vision. Là.
Exactement. Mais ce qui arrive aussi en bourse, il ne faut pas se le cacher, c'est qu'il y a beaucoup d'argent liquide qui est disponible pour être investi à cause de cette baisse, de cette impression d'argent-là dans le passé. Et on est en fin de cycle boursier également. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits investisseurs qui font bouger la bourse avec de l'enthousiasme excessif puis du pessimisme excessif aussi. Parce qu'en 2022, d'une certaine façon, il y avait du pessimisme excessif à certains endroits, à quelque part. Fait que tu es vraiment dans une situation où est-ce qu'on est oversensible à toutes les nouvelles économiques qui peuvent sortir et on les interprète mal en plus. Moi, je veux dire... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le long terme. Okay? Je suis très peu sensible au court terme. En fait, je suis absolument pas sensible aux fluctuations de court terme. Puis, tu sais, je prends pour acquis qu'il va en avoir une récession. Je ne sais pas quand, je m'en calisse. Il va en avoir une à un moment donné. Je prends pour acquis que la bourse va planter de 35-40% à un moment donné aussi. Je ne sais pas quand, puis c'est pas grave. I don't care. Okay? C'est toutes des choses que quelqu'un qui fait de la gestion à long terme en finance comprend que ces cycles-là sont normaux. Puis c'est pas grave. Mm-hmm. Il s'agit juste d'avoir configuré le portefeuille pour que quand il y a une baisse de portefeuille, ça ne nuise pas à un retraité, mm-hmm. ça ne nuise pas à quelqu'un qui a besoin de sortir de l'argent. C'est la seule chose qu'on doit s'occuper de notre côté.
Mais tu sais, dans l'article, une des choses dont il parle, c'est que il y a des précédents, les inquiétudes peuvent être réelles parce qu'il y a des précédents. Là, on nous dit, il n'est pas rare que la Fed modifie ses taux d'intérêt les années électorales. La Banque centrale a commencé à relever ses taux depuis des niveaux historiquement bas en 2004 lorsque le président George W. Bush cherchait à être réélu. Elle a lancé une campagne de relance par l'achat d'obligations alors que le président Barack Obama cherchait à être réélu. Et en 2020, il a réduit ses taux et lancé les achats d'obligations lorsque la pandémie a éclaté. Donc, c'est sûr que si tu regardes l'historique, là, il y a d'autres exemples qui sont donnés, il y a souvent des mouvements ou des changements un peu de direction pendant des années électorales.
Mais écoute,
je trouve ça de bonne nouvelle.
Non, c'est pas une bonne nouvelle parce que, tu sais, la crise de 2008 qui était extrêmement profonde. Elle a été tough, celle-là. L'éclatement de la bulle immobilière aux States, c'était spectaculaire. Mais à peu près tous les livres que tu lis sur la politique monétaire de Greenspan dans ces années-là, ben tu te dis, crime, on a vraiment pris des décisions très louches. Là. Mm-hmm. On gardait les taux artificiellement bas alors que l'économie roulait à fond de train. Là, mm-hmm. Là tu te dis, pourquoi? Pourquoi? Ça va bien, c'est pas le temps de les garder trop bas. Arrêtez, vous êtes en train de créer une bulle, puis c'est quand même ce qui est arrivé, de créer une bulle au niveau des maisons. Puis ça l'a pété solide, cette bulle-là, quand elle a éclaté. Ça a sacré la planète au complet en récession. Pensez-y, là. Un pays a sacré la planète au complet en récession parce que sa bulle immobilière dans leur pays a éclaté. C'est débile, là. Il y a des grandes institutions financières qui ont fait faillite. Là. Bear Stearns, là, vous ne connaissez pas ça aujourd'hui, en 2024? Ben, Bear Stearns, c'était une entreprise qui était très profitable en 2007. Là. Ça l'a implosé.
Ouais, exact. C'est assez capoté, pareil. Écoute, on en a appris des bonnes quand même ce matin sur la fameuse filière batterie. Moi, je l'ai en version plus. Ah, oh, bon, de même, ça fait. J'allais dire, je l'ai comme en version plein écran. Mais de même, c'est bon aussi. Là. Donc, des pertes massives pour Nordvolt, un texte de Sylvain Larocque. En général, les textes de Sylvain sont bien. Là. J'aime bien ces textes économiques. Là. Et là, on nous dit, l'an dernier, alors que Nordvolt négociait avec Québec et Ottawa pour décrocher des milliards de dollars de notre cash, ça c'est moi qui l'ai rajouté, la jeune entreprise suédoise cumulait retard et pertes massives.
Parce que ça, c'est le bout que les gens n'ont pas compris. Hein. Nordvolt, c'est pas une compagnie qui a une grande réputation internationale établie depuis des décennies. Là.
Non.
C'est une petite compagnie start-up, là. Au cours des 9 premiers mois de 2023, Nordvolt a subi une perte colossale d'environ 1,4 milliard, soit plus de 8 fois celle enregistrée pendant la même période en 2022. Donc, c'est une entreprise qui, fondamentalement, fait des pertes financières à chaque année. Pas pour rien qu'on finance ça à 7 milliards de dollars sur 7 ans, là, quelque chose de même. Ces chiffres viennent d'un article publié en décembre par le journal financier suédois Dagens Industri, qui a obtenu le rapport du troisième trimestre 2023 de Nordvolt. Parce que je ne me trompe pas, Nordvolt n'est pas inscrite en bourse, ce qui fait en sorte que normalement, ces chiffres sont quand même durs à obtenir. Fait que Dagens l'ont eu. Puis le journaliste économique du Journal de Montréal a fait une belle job. On chiale après les journalistes souvent. T'sais, Antoine Robitaille méritait de se faire passer d'un tord d'air un matin. Mais lui mérite de... C'est ça du journalisme. Ça, ce qu'on est en train de lire, là, c'est du vrai journalisme. J'apprécie beaucoup ce genre de journalisme-là, personnellement. Les mauvais résultats financiers de Nordvolt s'expliquent en bonne partie par la faible production de la seule usine de l'entreprise, située à quelque part en Suède, et par ses importants stocks de lithium, de nickel et de cobalt dont la valeur a plongé. Parce que, rappelez-vous, avec le retrait de l'industrie automobile, tranquillement, pas vite, des batteries, ben, ces matières-là ne vont pas bien. Laissez continuer, Frank, s'il te plaît.
Yann est en train de s'étouffer. Donc, c'est ça. Là, on nous dit que ça va vraiment pas bien pour cette business-là. Les livraisons ont été problématiques. Là, on nous dit lors de l'annonce de la construction de l'usine en 2017, il était prévu que des installations fonctionneraient à plein rendement en 2023. Et cet objectif a été reporté plusieurs fois. Et Nordvolt, c'est maintenant 2025 pour l'atteindre.
Il y a un gros client de Nordvolt qui est une entreprise de camions, Scania. Eux autres sont en sacrifice après. Là. C'est parce qu'ils ne sont pas capables de livrer eux-mêmes les promesses qu'ils ont faites parce que Nordvolt ne livre pas les batteries. C'est assez capoté quand tu y penses. Puis moi, ce qui m'a vraiment fait tilter dans l'article, là, c'est ce qu'on va voir là. Le PDG, Peter Carlson, c'est voulu rassurant. Oui, il est rassurant, mais moi, les actions parlent plus que les paroles. Quand on descend à ça, puis j'aurais aimé ça que ce soit plus haut dans l'article parce que moi, j'ai vraiment accroché là-dessus. Où c'est qu'on le dit? C'est vraiment bas dans l'article. Malheureusement, ça devrait être plus haut. Le PDG a vendu pour plus de 25 millions d'actions. Ça, là, moi, mon tableau de bord, il flash rouge, ben raide quand je vois quelque chose comme ça. Ce que je vois, c'est que le PDG a vendu son projet à beaucoup d'actionnaires, a été financé par ces actionnaires-là d'une manière assez importante. Puis on a la liste des actionnaires un peu plus bas. Tu sais, c'est des grosses entreprises qui ont financé Nordvolt, dont Scania, je pense, qui ont mis de l'argent là-dedans. Puis lui, il y avait un pourcentage d'actions de son entreprise. Dites-vous une affaire. Mettons que tu es dans une entreprise en pleine croissance qui s'apprête à signer des méga contrats avec des partenaires financiers majeurs au niveau de l'industrie à batterie qui serait techniquement, on nous dit, une révolution dans le monde de l'automobile qui serait la manne tant souhaitée par tous, qui présentement, cette entreprise-là fait des déficits. Tu te dis, il y a des chances que les actions que tu possèdes, tu considères qu'elles soient très précieuses puis que tu aimerais les garder très longtemps pour t'assurer que ça vale 10, 15, 20, 30, 100 fois plus que ce que ça vaut aujourd'hui. Regardez le titre boursier de Apple, par exemple, ou de Google à leur émission en bourse. Vous allez vous rendre compte que la personne qui les a achetés au début et qui les a gardés longtemps, ça valait la peine. Puis dites-vous que la personne qui les a achetés quand c'est rentré en bourse, elle les a payés pas mal plus cher que les pères fondateurs de l'entreprise.
Ben oui.
Fait que toi, tu es un fondateur de l'entreprise, tu es un PDG de l'entreprise. Tes actions, tu ne veux pas t'en débarrasser facilement, surtout quand tu n'es pas encore entré dans ta phase payante. Là. La journée que tu commences à faire des profits, tu t'inscris en bourse, tout le monde veut acheter tes actions, je veux dire, tu deviens multimilliardaire. Ce gars-là, la manière que ça nous est présenté, Nordvolt, a la possibilité de devenir multimilliardaire techniquement. Ben, de 2019 à 2022, il s'est départi de 25 millions d'actions de l'entreprise. Fait que lui, il aura beau être rassurant de son côté quand il parle, là. Ses actions ne disent pas la même chose que ses paroles. Il n'y croit pas au projet de Nordvolt. Parce que si tu y crois, tu ne te départis pas de tes actions. Tu sais, tu as peut-être besoin de payer une coupe de facture, 1, 2 millions, si on peut comprendre ça. Mais là, c'est 25 millions. Savez-vous à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui est un extrême bon vendeur. C'est vraiment un bon vendeur. Il n'a absolument pas confiance dans l'entreprise qu'il gère. Puis il essaye de faire une paye avant qu'il soit trop tard. Ça ressemble à ça, Nordvolt. Puis ça, c'est nos génies d'investissement à Québec qui investissent là-dedans. Là. Des génies, mes amis.
Oh,
le PDG est en train de se sauver avec son cash. Puis ça, si tu fais un due diligence, quand tu arrives et tu veux envoyer 7 milliards à une entreprise là, avec divers paliers gouvernementaux, tu fais un due diligence. Là. Tu t'assures que cette compagnie-là est bien gérée, puis tu t'assures que cette compagnie-là, le PDG qui est à sa tête, il y croit, là.
Ben, je sais pas. Me semble.
Ça a l'air d'un fly-by-night, là.
Ouais, ça a l'air de du take the money and run.
Regardez les actionnaires. Ils ont accès à du gros cash, là. 22% de Volkswagen, 15% Goldman Sachs, Vargas et Peter Carson lui-même qui avait 6,9% de l'entreprise. Criff, il a vendu pour 25 millions d'actions. Ça vous allume rien, vous autres? La clé de cet article-là, comme je vous dis, je pense que le journaliste a fait une bonne job, mais il n'a pas réalisé jusqu'à quel point que la clé de l'article était à la fin de son article. Mais c'est ça ici. Moi, là, je suis à Investissement Québec, là, puis je me fais vendre l'entreprise de Nordvolt comme étant une merveille du monde, puis j'ai le goût d'investir dedans. Je lis seulement ce bout-là. Là. C'est départi de 25 millions d'actions de l'entreprise de 2019 à 2022. Je ferme le dossier. C'est terminé. Mm-hmm. Ça vient de se finir là. Même si ça avait l'air beau, même si le projet avait l'air bon, même si le produit avait l'air bon, son PDG n'y croit pas. Ça finit là, là. Puis parle à n'importe qui aime la finance. Parle à des gestionnaires de portefeuille. Une des choses que le gestionnaire de portefeuille veut faire avant de décider d'investir des millions de dollars dans une entreprise, c'est exactement ça. C'est de dire, hey, est-ce que cette compagnie-là est bien gérée? Puis est-ce que le PDG à sa tête y croit vraiment? Même les petits investisseurs regardent ça. On appelle ça les transactions d'initiés. Ces transactions-là d'initiés, souvent, sont publiques. Quand tu vois un gestionnaire d'entreprise qui est en train de liquider ses stocks, c'est qu'il essaye de faire une passe de cash avant que ça ne vale plus rien.
Mm-hmm.
Moi, là, la probabilité que Nordvolt fasse faillite dans les 5 à 10 prochaines années, elle est non négligeable. Elle n'est pas de 0% cette probabilité-là.
Et ce, malgré l'aide financière qui aura été donnée par le gouvernement. Écoutez, on va migrer vers la partie Patreon. On a du contenu exclusif. On va vous dévoiler la liste des influenceurs et des leaders d'opinion qui ont reçu un cachet du gouvernement lors de la pandémie pour participer à des publicités telles que
ça ici, des TikTok, des Instagram
tels que concours vaccinal, masque, l'opération porte ton masque, l'opération Halloween et bref, une série de patentes comme ça. Donc, on a les montants, on a tout ce qu'il faut et tout ça, c'est la résultante d'une demande d'accès à l'information qui a été faite au ministère du Conseil exécutif. Donc, on aura les détails pour vous, mais sur Patreon.
Exactement. Ça risque d'intéresser pas mal de monde, je pense.